OK, vous le savez, l'impact sur les finances publiques de la pandémie, ça se mesure en milliards. Et l'Institut du Québec fait une sortie là, ces jours-ci pour faire un diagnostic des finances publiques de l'État québécois. Il y a des nuages gris à l'horizon, mais il y a du soleil aussi et des gestes à poser si on veut éviter les orages. On accueille donc sa présidente et directrice générale, Mme Mia Homsy. Mme Homsy, bonjour.
Bonjour.
Désolé, j'ai un peu massacré votre nom. J'allais dire Homsky, mais voilà. Écoutez, le manque à gagner pour cause de pandémie dans les finances d'État québécois, ça va s'élever à combien de milliards?
Ça va s'élever à 36 milliards, puis je vous explique comment on arrive à ce chiffre-là. Dans le fond, il y a deux éléments. Le manque à gagner, c'est pas juste les dépenses, mais c'est les revenus aussi dont on se prive. Parce que quand il y a une crise économique, ben l'économie tombe d'un coup, les gens perdent leurs emplois, payent plus d'impôts, la consommation baisse, donc il y a beaucoup moins de revenus pour l'État. Et pas juste pour une année, ça reste dans le temps l'effet de cette perte de revenus-là. Puis c'est très difficile de revenir au niveau de revenus qu'on avait prévu avant le budget. Et ben les dépenses ont explosé, particulièrement cette fois-ci, parce qu'on avait une crise de santé publique aussi. Mmh. Donc, il y a un 25 milliards dans notre 36 milliards que c'est des dépenses de plus sur 5 ans et 11 milliards de revenus de moins. Donc, c'est 36 milliards sur une période de 5 ans qui est le coût de cette pandémie-là pour l'État.
OK. Ce qui est intéressant, là, c'est dans votre analyse à l'Institut du Québec, c'est sur l'équilibre budgétaire, les déficits budgétaires. On va parler de l'équilibre pour 2025-2026. Vous écrivez que ce ne sera pas évident, mais que ce n'est pas si grave que ça non plus.
Bon, là, les finances publiques, c'est un sujet qui a l'air très aride, plat, difficile, mais c'est vraiment important parce que ça va avec les services qu'on a, ça va avec les taxes et les impôts qu'on paye. Donc, il faut comprendre la loi. Au Québec, on a des lois assez sévères là, qui disent qu'on doit avoir l'équilibre budgétaire en 2025-2026. Puis en plus, ça inclut de l'argent qu'on met de côté dans le fonds des générations pour payer la dette. Ça, je pense que ça va être très difficile d'y arriver parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'on va plutôt être en déficit de 6,5 milliards en 2025-2026. Puis ça, 6 milliards, là, un trou de 6 milliards à fermer, c'est plus que ce qu'on a fait en 2008. Mais pourquoi c'est moins grave? Parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc, quand on emprunte pour s'endetter, il n'y a pas beaucoup d'impact. Là, on le voit, ce qu'on paye en service de dette, ça reste très faible en proportion de nos revenus. Et aussi, bien, parce qu'il y a la reprise semble être très, très forte. Les prévisions sont de plus en plus optimistes. On va avoir des revenus très, très importants au cours des prochaines années. Donc, on a du temps. On peut investir dans la relance. Il ne faut pas penser que c'est la catastrophe. Le déficit, c'est colossal. Là. On est dans les 15 milliards. On n'a jamais vu ça au Québec. Mais toute la planète s'est endettée et ça coûte beaucoup moins cher s'endetter. Donc, on peut prendre quelques années de plus pour équilibrer les livres, mais il ne faut pas abdiquer, par exemple, cette finalité.
Moi, j'ai grandi, là, disons. Là, écoutez, j'avais 21 ans quand l'État fédéral a commencé à rentrer dans l'art du déficit. Paul Martin est arrivé, il y a eu un gros travail de restructuration. J'ai été élevé à l'ère j'ai grandi comme adulte à l'ère du déficit zéro. Là, est-ce que je me trompe ou il y a comme un changement de paradigme où là, vous nous dites qu'il ne faut pas vraiment capoter avec ça?
Bien, en fait, c'est pas juste nous qui le disons, là. C'est vraiment quand on regarde ce qui se passe sur la planète. On regarde juste aux États-Unis, là, les plans de relance incroyables qu'ils sont en train d'annoncer. Puis de plus en plus, il y a comme, à cause de la faiblesse des taux d'intérêt, puis c'est vraiment ça qui vient changer la donne. C'est comme, ça coûte tellement moins cher emprunter qu'au lieu de prendre une portion importante des revenus de l'État pour payer notre dette, bien, ça nous coûte pas cher pour pouvoir s'endetter. Puis s'endetter, ça a quand même certains avantages, sans dire que c'est ça qu'il faut faire de face à outrance, là, mais c'est que ça nous permet de financer des infrastructures. Ça nous permet d'offrir des services comme en santé, là, avec ce qu'on a vu dans les CHSLD. Je m'excuse, mais je pense pas qu'on va pouvoir vivre dans le monde post-COVID comme on vivait avant. Et la population vieillit. On a comme un 20 ans où ça va juste être pire, là, ce qu'on voit dans les CHSLD, ça va être encore bien plus de monde qui va être là. Il y a les 65 ans et plus, là, ça va être un quart de la population dans quelques années. Et ben l'éducation, c'est impossible de penser que la pandémie n'aura pas d'impact. Donc, c'est vraiment les finances publiques, là, ça faut pas que ce soit un dogme, l'équilibre zéro, le déficit zéro, l'équilibre. C'est vraiment un équilibre entre dépenser judicieusement, puis les défis qu'on a maintenant, mais les défis à venir aussi, parce qu'il y a une notion d'équité intergénérationnelle.
OK, je veux qu'on parle des mesures de soutien aux revenus. On le sait, là, les gouvernements, principalement le gouvernement fédéral, a injecté des milliards pour que les Canadiens ne manquent pas d'argent pour payer ce qu'ils ont à payer à chaque mois. Quel effet ça a eu sur les finances publiques d'injecter comme ça de l'argent dans la société?
Bien, ça a complètement changé les prévisions, les attentes. On s'attendait à une année 2020 catastrophique sur la croissance économique et sur le PIB, sur l'emploi surtout, et une reprise forte, mais pas au point qu'on va le voir là. Donc, c'est vraiment les mesures de soutien aux revenus, puis c'est clair, là, c'est pas, on n'essaie pas de deviner, les chiffres sont clairs, le revenu disponible des Canadiens a augmenté de 10% alors qu'on est en crise économique, habituellement ça baisse, et l'épargne a augmenté de plus de 20%. C'est-à-dire, cet argent-là va être décaissé à un moment donné, puis les gens ont épargné peut-être parce qu'ils avaient des insécurités par rapport à la suite, mais aussi parce que c'était très difficile de consommer des services, là. Mais les gens, dès qu'on a déconfiné, se sont mis à consommer des biens. Là, on consomme pas maintenant comme on consommait avant, mais on consomme encore pas mal, et c'est ça qui va faire carburer la reprise, dans le fond.
Bien, vous parlez de reprise, puis j'ai lu votre analyse, je vous ai écouté, j'ai écouté une de vos réponses tantôt, puis écoutez, Mme Homsy, moi, j'ai le sentiment, puis ce n'est qu'un sentiment, OK, depuis des semaines et des mois, que quand ça va repartir en fou. Est-ce que les chiffres donnent raison à ce sentiment-là?
Bien, les chiffres donnent vraiment raison à ce sentiment-là, puis ça n'arrête pas d'être révisé, là. Les banques, tout le monde sont en train de sortir des nouvelles prévisions, là, comme depuis quelques jours. Puis il y a le PIB réel, donc ça, c'est la croissance vraiment de l'économie, mais le PIB nominal, ça tient compte de l'inflation, donc la hausse des prix. Puis je veux pas être technique, mais on va être à des chiffres de comme 8-9% de croissance. On n'a jamais vu ça, et ça fait que les revenus vont être beaucoup plus forts que prévu. Mais ça va être aussi accompagné de dépenses qui sont plus importantes. Donc, c'est pour ça, les finances publiques, c'est pas si mal à court terme à cause de cette embellie. On n'a pas vu ça en 2008, mais là, on risque de le voir parce que les gouvernements ont tellement investi, puis d'après moi, les gens vont recommencer à consommer aussi de manière assez forte. Donc, on va avoir quand même des années d'embellie à court terme, mais il faut vraiment pas que ça fasse dire aux gens qu'on n'a plus besoin d'être à l'équilibre puis d'abdiquer cette notion-là, parce que après ces deux années d'embellie qu'on prévoit, on retourne à une croissance qui est beaucoup plus faible parce que notre productivité est faible, mais nos besoins en santé, en éducation, eux, sont très élevés, par exemple.
Toujours un plaisir de vous parler. Merci, Mme Homsy.
Merci beaucoup.
Salut, c'était Mia Homsy qui est présidente et directrice générale de l'Institut du Québec. Parfait. Si vous voulez m'écrire, patrick@985fm.ca, la messagerie 98985. Et au retour, notre ami Martin McGuire va nous parler de cette autre défaite du Canadien en prolongation hier.